Amis auditeurs, auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir trois personnes avec qui nous allons parler du nouvel orgue au temple de la rue Maguelone, près de la gare. J'ai le plaisir d'accueillir Michel Dautry. Michel, bonjour.
Bonjour.
Hélène Matra. Hélène, bonjour.
Bonjour.
Et Daniel Viblé. Daniel, bonjour.
Bonjour Anne-Marie.
Avec vous trois, nous allons aborder ce magnifique projet qui a vu jour, puisque l'inauguration, nous en parlerons, a eu lieu la semaine dernière. Peut-être que Michel, vous pourriez nous décrire le projet, depuis quand il a trouvé sa source, sa genèse, et comment il est arrivé à aujourd'hui.
Alors, le projet n'est plus un projet, c'est une réalité. Le projet, le début du projet remonte à 2009. L'association des Amis de l'Orgue du Temple de la rue de Maguelone a donc été créée en 2009. Elle a été créée avec le but unique de construire l'orgue dans ce temple. Alors évidemment, au début, c'est un peu compliqué parce que le projet avancé par la OTM ne convenait pas à tout le monde. Mais petit à petit, l'unanimité s'est faite autour de ce projet. Alors, quand on construit un orgue, il faut d'abord définir un projet. Un orgue pour jouer quoi ? De quelle importance, de quel volume, combien de jeux, et quel en est le prix. Alors on s'est d'abord intéressé à la composition de l'orgue, on a eu des réunions assez larges pour définir la composition de l'orgue. L'objet c'était de construire un orgue adapté prioritairement à la musique de Bach, bien sûr. Donc on a choisi un orgue de 33 jeux, 3 claviers. C'est un instrument important, mais qui convient à l'acoustique du lieu, qui est une acoustique généreuse, qui valorise les sonorités de l'orgue. Alors voilà, on s'est mis au travail, le conseil d'administration, le bureau, on s'est mis au travail avec persévérance pendant des années et des années. Petit à petit, on a résolu tous les problèmes. Mais un orgue de 33 jeux sur une tribune très étroite, c'était impossible à réaliser. On a donc fait appel à un architecte de Lyon, qui s'appelle Martin Bacot, qui lui-même est un brillant organiste, et qui a conçu un buffet d'orgue capable de rentrer sur cette tribune très étroite. Et ça a donné un résultat tout à fait étonnant sur le plan esthétique. Le projet de construction de l'orgue a été confié à un grand facteur d'orgue qui s'appelle Pascal Corin. Et petit à petit, l'orgue a été construit dans l'atelier tout d'abord, où on vérifie tous les montages, toute la menuiserie. Et bien sûr, après, il est démonté et il est remonté dans le temple. Il est donc arrivé à Montpellier dans la nuit du 15 au 16 janvier. Et depuis cette date, l'orgue a été remonté progressivement, semaine par semaine. Nous avons fait faire une vidéo par Justin Lemoisson, qui est une très belle illustration de ce montage de l'orgue. Une fois que l'orgue est monté, installé, il faut l'accorder, parce qu'il y a 2207 tuyaux dans cet orgue. Il faut installer chaque tuyau par série et après les accorder et après les harmoniser. C'est un gros travail très délicat qui a été fait par un spécialiste de l'entreprise Corin pour aboutir à un orgue de très belle sonorité. Donc un orgue polyphonique qui peut jouer toute la musique qu'on veut, mais prioritairement Bach, et un orgue d'une sonorité très très claire, très lumineuse. Je tiens beaucoup à ce terme de sonorité lumineuse. Pour l'inauguration qui a eu lieu samedi dernier, dimanche dernier, on a bien réalisé à quel point cet orgue a une très très belle sonorité, une certaine puissance, pas trop, parce que le temple n'est pas très très grand, mais une puissance sonore qui s'adapte au lieu dans lequel il est destiné, c'est-à-dire ce temple, inauguré en 1870.
Merci beaucoup Michel pour ces premières indications. Hélène, vous allez nous parler de ces trois rendez-vous qui ont eu lieu, je crois, pour l'inauguration.
Oui, ça a été trois journées, comme on dit, de folie, parce qu'il y a eu beaucoup de public. La couverture médiatique avait été bonne, puisqu'il y a eu un premier article dans Midi Libre, quand Midi Libre est venu interviewer les Laurent, même le facteur d'orgue qui a été le chef de chantier, qui est le co-gérant de la Scope Quarel. Midi Libre est venu interviewer Laurent même et Michel Dautry. Il y a eu un magnifique article dans Midi Libre qui a montré la grue, les efforts qu'il avait fallu faire pour aboutir au montage complet de l'orgue. Puis ensuite, il y a eu un article dans La Gazette qui a aussi permis de faire en sorte que le public a été là au moment de l'inauguration. Cette inauguration a réuni plus de, entre les trois jours, parce qu'il n'y a pas eu que deux jours, mais trois jours, entre les trois jours, il y a eu plus de 1200 personnes qui sont venues. Le premier jour était très, important, puisqu'il y a eu deux événements séparés par une demi-heure de battement. Le premier a commencé le samedi 24 et il y a eu tout d'abord la vidéo de Justin Lemoisson que nous voyions tous pour la première fois et qui était très très réussie. Le seul problème, c'est qu'il y avait beaucoup de lumière encore et donc il a fallu éteindre toutes les lumières du temple pour que cette vidéo soit mise en valeur. Ensuite, il y a eu bien sûr la présentation par deux conférences de Martin Bacot, l'architecte du buffet, qui est visiblement est heureux de la réalisation qu'il a pu constater des visu et qui nous a brossé un tableau de son activité pour arriver à concevoir le buffet dans lequel tous les éléments pouvaient s'intégrer. Et ensuite, il y a eu aussi, toujours dans ce premier temps, une conférence de Pascal Coirin, qui lui a expliqué comment il avait organisé à l'intérieur de l'orgue toute la série de jeux, en expliquant qu'il n'y avait pas trois claviers, mais quatre claviers. Il y en avait un qui correspondait au grand orgue, le second au récit, le troisième au...
C'est le second au positif.
Le second au positif, le troisième au récit, et le quatrième, ce sont les pédales. Les pédales qui sont les grandes... qui aboutissent plutôt aux tuyaux contenus dans les colonnes latérales. Voilà, alors après ce premier moment, il y a eu bien sûr l'inauguration officielle. L'inauguration officielle s'est faite en présence de personnalités publiques. L'accueil a été fait par Alain Chapelle, président de la CEPUMA, président du conseil presbytéral. Ensuite, bien sûr, c'est Michel qui a accueilli tout ce monde. Ont pris la parole la représentante de la mairie et la métropole en la personne de Fanny Dombre-Coste, et puis Hussein Bourgi au nom du conseil régional. Ce sont deux des quatre financeurs très importants que nous avons eus. Le préfet, hélas, n'était pas là pour représenter l'État et le ministère de la Culture. C'était un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et cette prise de parole a été assez rapide. Ces prises de parole ont été assez rapides pour laisser la place au concert inaugural par Philippe Lefebvre, qui a été magnifique. Voilà. Ensuite, le deuxième jour, ça c'était toujours, je parlais toujours du samedi 24, le dimanche 25 a eu lieu un très beau concert donné par Luc Antonini, qui est professeur au CRR de Montpellier, au Conservatoire Régional de Montpellier, qui a fait un concert avec 40 chanteurs de l'Opéra Junior. L'Opéra Junior a donc pris place, les voix et l'orgue ont donné alternativement et ensemble des pièces, ça a duré une bonne heure et demie, je pense, et à la grande satisfaction du public. Et alors, le troisième événement, c'était le jeudi 29 mai, où le bureau avait opté pour ouvrir l'orgue à d'autres organistes de la région, ou pas de la région, du reste, autres que les grandes vedettes que nous avions eues, Philippe Lefebvre et Luc Antonini. Et on a eu 10 organistes qui se sont succédés à la tribune de l'orgue, dans une atmosphère très sympathique et très musical. Nous avons eu la surprise de voir que le public répondait à cette invitation. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le bilan complet de
Merci
ça.
Merci beaucoup, Hélène.
Mais je voudrais ajouter une petite chose.
Allez-y.
C'est qu'au départ, l'idée de ce projet a été soutenue par une présidente dont je tiens à saluer ici le nom, c'est Dominique Arnal, qui restait présidente très peu de temps, parce qu'après Michel est arrivé et ça a été formidable, la persévérance et l'endurance qu'il a manifestée pour entraîner jusqu'au bout toute son équipe. Voilà, et je voulais le dire.
Oui, et puis vous nous avez parlé de Philippe Lefebvre, mais pour beaucoup de nos auditeurs, Philippe Lefebvre, on ne sait peut-être pas qui c'est. Vous pouvez nous dire quel est son engagement passé aussi ?
Il a été très important pour nous. Il se trouve que Michel Dautry a eu le bonheur de réunir autour de l'équipe du conseil d'administration des personnalités de premier plan. Et alors je veux saluer Philippe Lefebvre, qui était organiste à l'époque de Notre-Dame de Paris, qui a fondé l'association Orgue en France, qui est très vivante et qui réunit beaucoup de professionnels et beaucoup d'organistes amateurs également autour de l'amour de l'orgue. Et Philippe Lefebvre a été aussi pour nous très important parce qu'il a fait partie dès le début du conseil technique et artistique de notre association. Ce conseil technique et artistique nous a entourés au moment où les difficultés nous paraissaient au-delà de nos compétences et il a été vraiment très important depuis le début jusqu'à la fin. Donc vraiment Philippe Lefebvre, merci si vous écoutez.
Et je crois qu'il a été organiste à Notre-Dame.
Il a été organiste à Notre-Dame de Paris, oui je crois que je l'ai dit tout à fait au début. Je ne l'ai pas dit ?
Oh. Si. Voilà, on le
organiste
redit,
de Paris, si, à l'époque. Ouais, à l'époque où tout a commencé, il était organiste à Notre-Dame de Paris. Maintenant il est émérite. Avec tout son talent encore, bien sûr.
Sur quelques minutes avant la pause, et nous continuerons ensuite, c'est Daniel Viblé qui va nous brosser un petit peu le détail en tant que trésorier de cette association du budget qui a été nécessaire pour ce magnifique projet devenu réalité.
Oui, alors le budget, évidemment, ça a été quelque chose d'assez impressionnant. On est parti sur un coût de l'orgue de 700 000 euros. On a pris de la marge, évidemment, dès le départ, pour le porter à 750 000 euros. Donc, du coup, on a entendu beaucoup de commentaires sur cette ambition pharaonique de la construction de l'orgue. Mais ça a été plus que pharaonique, puisqu'à la fin, on est arrivé à 930 000. Puisqu'il y a eu divers aléas, dont notamment celui du renforcement de la tribune, et puis de différentes choses. Et ben, on pourrait dire que le miracle a eu lieu, puisque finalement, on a été très longtemps, on pourrait dire, à découvert, donc un découvert, si on peut dire, qui se réduisait quand même de mois en mois, grâce à la générosité de nos nombreux donateurs. Et la dernière cerise sur le gâteau a été un chèque de 20 000 euros d'une personne souhaitant garder la discrétion, sinon l'anonymat, qui a permis de combler. Donc on est actuellement à un budget de 930 000 euros et nous allons... donc ce budget est bouclé. Alors je dois dire que je peux exprimer toute ma reconnaissance et même mon étonnement en quelque sorte, mais pour tous les 900 à peu près, un peu plus de 900 donateurs qui se sont succédés, enfin qui continuent d'ailleurs à verser régulièrement leur obol, leur contribution, et puis aussi pour moitié à peu près du budget, et pour l'autre moitié aux collectivités publiques, dont la première a été, comme l'a dit Hélène, le ministère de la Culture, donc l'État en fait, qui a débloqué une somme importante, 150 000 euros, ce qui a permis ensuite aux autres collectivités d'intervenir, dont la région, effectivement la région Occitanie également nous soutient toujours d'une somme équivalente. Le département de l'Hérault a contribué aux travaux du renforcement de la tribune, et puis la ville et la métropole de Montpellier ont pris leur part de manière aussi tout à fait remarquable. Je citerai également la Fondation du patrimoine, par qui nous avons souhaité passer pour leur renom et leur sérieux. Et effectivement, beaucoup de personnes sont passées par la Fondation du patrimoine pour nous soutenir. Et la Fondation du patrimoine elle-même nous a aidés en organisant certains événements, comme certains concerts. Donc on peut dire que le trésorier, actuellement, se trouve dans une situation plutôt confortable, plus que ce qu'il a été pendant ces 16 années. Et je dois dire aussi que sans l'aide de mon adjoint, entre guillemets, Paul Schwarz, je crois qu'on n'en serait pas là et que nous n'étions pas trop de deux pour accomplir ce travail.
Nous reviendrons sur des précisions. Je crois que Michel, vous vouliez dire quelque chose. Mais auparavant, j'invite nos auditeurs à écouter ce magnifique morceau, Récit de tierce en taille. Le compositeur est Louis Marchand et l'organiste Leonardo Carrieri. Auditeurs, auditrices, nous nous retrouvons maintenant avec mes trois invités pour parler du magnifique orgue qui vient d'être inauguré au temple de la rue Maguelone. Donc je rappelle les intervenants aujourd'hui, Michel Dautry qui est président, Hélène Matra vice-présidente et Daniel Viblé qui est trésorier. Et Michel, je crois que vous vouliez reprendre par rapport au budget qui a été présenté, des précisions vous vouliez donner.
Je voudrais simplement ajouter que nous avons organisé un parrainage de tuyaux. Un parrainage de tuyaux qui a été très efficace. Beaucoup de personnes étaient désireuses d'avoir leur nom marqué pour marquer l'attribution d'un tuyau. Alors les parrains et marraines ont parrainé un ou plusieurs tuyaux, soit pour eux-mêmes, soit pour des personnes auxquelles ils étaient destinés. Il y aura un livre d'or dans lequel tous les noms des parrains et marraines seront mentionnés, avec le nom du tuyau qu'ils auront parrainé. Ça peut être un fa dièse du Bourdon, ou ça peut être n'importe quel tuyau. Comme il y en a 2226, c'est très varié. On a eu, je crois, 700-800 parrains et marraines. Voilà. Alors, pour revenir à l'orgue, je voudrais préciser certaines choses. Le facteur lui-même, il y a quelques jours, me disait « il n'y a pas deux orgues en France comme celui-là ». Par son esthétique visuelle. Quand on voit cet orgue, on se dit « on n'a jamais vu ça ». On n'a jamais vu parce que cet orgue est disposé en quatre colonnes, séparées les unes des autres, alors qu'habituellement l'orgue est constitué d'une sorte de buffet, qui est une sorte de grande boîte en bois, avec une façade plus ou moins ornée, quelquefois en très belle menuiserie, voire ébénisterie, dans les orgues du XVIIe ou XVIIIe. Celui-là, c'est un orgue, un buffet complètement contemporain, moderne, quelque chose qu'on n'a jamais vu, c'est vrai, jamais vu. Alors, il est très remarquable par son aspect visuel, il est remarquable aussi par son équilibre sonore. Qui a été très étudié par le facteur et par Philippe Lefebvre en particulier. Je voudrais dire aussi que dans notre équipe initiale, il y avait Jean Cordrenoux qui était professeur au Conservatoire de Paris, grand musicien très connu, qui malheureusement est décédé il y a 4 ans. Mais nous lui devons certains conseils dont nous avons tenu compte dans la composition des jeux. Voilà, dans ces jeux, il y a bien sûr des tuyaux très grands, de 2,40 m, les plus gros font 2,40 m, les plus petits sont à peine plus gros qu'un crayon. Les grands tuyaux donnent les sons graves, les plus petits donnent les sons aigus. Ils sont donc répartis par familles différentes. Beaucoup sont des tuyaux à bouche, comme des sortes de flûtes ou de pipeaux. D'autres sont des tuyaux comme les hanches, comme les trompettes, des choses comme ça. Voilà, c'est un orgue comme tous les orgues en définitive, sauf que il a des caractéristiques qui le différencient de beaucoup d'autres.
Merci beaucoup Michel. Je crois Hélène que vous vouliez compléter au niveau du nombre de personnes qui ont contribué à ce magnifique projet devenu réalité.
Oui, tout à fait. Je parlais de Philippe Lefebvre qui a été très important pour nous, mais une autre personnalité a été éminemment importante, c'est Jean-Claude Casadesus, qui était à l'époque chef d'orchestre de l'orchestre de Lille, à qui Michel a écrit, qui a répondu que oui, il acceptait de soutenir le projet de l'orgue. Tout simplement, et on le remercie énormément, parce que la contribution qu'il a pu apporter a été très importante, en particulier en 2018, où le lancement du parrainage des tuyaux a été lancé, excusez-moi pour les deux mots côté à côté, le parrainage a eu lieu avec un concert qui restait dans les mémoires où Jean-Claude Casadesus est venu à Montpellier diriger l'orchestre des jeunes du conservatoire de Montpellier et ça a été très très apprécié, le temple était plein et c'est à lui qu'on...
Dans le temple,
oui. Il a eu lieu dans le temple. Et c'est à lui qu'on doit cette phrase magnifique. En musique comme dans la vie, l'excellence n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et on en a fait un peu notre devise, parce que c'est un orgue excellent, voilà, tout simplement. Et je crois que je voulais aussi parler du rayonnement à venir de l'orgue. Il y a deux concerts qui vont être organisés déjà au mois de juillet, dont il faut parler. C'est Radio France, le festival Radio France, qui a choisi le temple pour faire deux concerts d'orgue en lancement de l'opération de l'intégrale de Bach pour l'orgue qui sera faite au cours d'un an par Jean-Pierre Lecaudet et Luc Antonini qui vont se succéder dans ces concerts. Et les deux premiers concerts auront lieu le 9 et 15 juillet à 10h au temple, bien sûr.
Merci beaucoup, Daniel. Est-ce que vous vouliez compléter un petit peu tout cela dans cette dynamique ?
Oui, on a parlé du passé, de la construction. Maintenant, on se tourne vers l'avenir, bien entendu. L'association AOTM continue d'exister, mais elle va être remaniée. Nous allons faire une assemblée générale extraordinaire le lundi 23 mai. Mais 23 juin à 18h, et le conseil d'administration va être renouvelé, le bureau aussi, et il s'agira maintenant de faire vivre cet orgue, notamment sur le plan culturel. Les rôles sont bien définis, puisque cet orgue appartient maintenant va appartenir à l'association cultuelle. Mais l'AOTM gardera son activité culturelle et se propose de faire rayonner cet orgue sur le plan de la ville, de la métropole, du département et de la région, et peut-être même au-delà, vers l'infini, si c'est possible. Et donc, une série de concerts sont prévus, on vient d'en parler, il y en aura d'autres, et on continuera à entendre parler et entendre cet orgue. Et on a cité tout à l'heure Jean-Claude Casatune, moi je citerai Michel Dautry, qui au début de cette aventure a dit « Le monde va mal, soyons fous, construisons un orgue ».
Et c'est extraordinaire, nous connaissons la place de la musique dans beaucoup de soins, mais aussi d'apporter du bien-être. Et vous parliez de l'architecture, et je crois que nous pouvons dire à nos auditeurs qui peuvent tout à fait aller au temple de la rue Maglone, c'est ouvert tous les jeudis de 12h30 à 13h30, ou les dimanches pour le culte, mais vous pouvez venir avant ou après. Et vous pourrez observer comment cet orgue a pris place sur une tribune en maintenant les vitraux qui donnent une luminosité et une beauté, une esthétique absolument extraordinaire. Hélène.
Oui, je voulais ajouter aussi que tous les mardis, entre midi et 2h, il y a une visite du temple qui est régulière et le temple est ouvert et on peut rentrer dans le temple pour avoir des notions de son architecture et admirer l'orgue et peut-être des commentaires, ça c'est l'avenir qui le dira, les commentaires sur l'orgue. Et moi je voulais parler de l'ancien orgue. Est-ce que je peux aborder ce sujet ? Cet ancien orgue a été déposé en 2022. Il se trouve que parmi les compagnons de l'équipe de Pascal Coirin, il y avait un facteur uruguayen. Et ce facteur uruguayen a trouvé dans son pays un écho favorable pour la réception de l'orgue ancien qui était toujours sur la tribune. Et à qui on a vendu, c'est à l'Uruguay qu'on a vendu l'orgue pour 1 euro symbolique à une institution qui s'est constituée spécialement pour recevoir cet orgue. Cet orgue a été démonté, a été mis dans un conteneur, a voyagé, il a eu des problèmes de douane, de toutes sortes en fait, il a mis plus d'un an pour arriver à Montevideo. Et à Montevideo, il a été encore arrêté pour des problèmes de douane, pour des problèmes. Et enfin, il est arrivé à bon port. Nous avons même des relations avec la fondation Merklin qui s'est constituée là-bas, puisque c'est un orgue Merklin qui a été démonté, qui était à Montpellier depuis 1893. Et cette fondation est en train de le remettre en état et il va être mis en place dans une ville historique tout près de Montevideo qui s'appelle Colonia de Sacramento dans l'église. Voilà.
Ça, c'est merveilleux. Cet ancien orgue va avoir une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse, et d'autres vont pouvoir se régaler avec lui. Michel, vous vouliez compléter, je crois.
Oui, simplement dire que quand on entre dans le temple et qu'on voit cet orgue, on a l'impression qu'il a toujours été là, alors que c'est un orgue moderne. Et que le temple n'est pas absolument moderne, puisqu'il est, il est fin du 19e. Et un ami organiste me disait il y a quelque temps, j'ai beaucoup aimé cette phrase, « Rien qu'à le voir, il chante ». C'est-à-dire, rien qu'à voir cet orgue avec ses colonnes et ses tuyaux en façade, des tuyaux particuliers qu'on n'a absolument jamais vus non plus, la forme des tuyaux tout à fait nouvelle, tout à fait particulière, rien qu'à le voir, il chante. Voilà. Donc, il chante muet, mais il chante bien sûr quand il fonctionne, quand il joue.
Merci. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez, Daniel, l'intérêt de la particularité de ce programme où il y a l'aspect culturel et l'aspect cultuel. Est-ce que vous pourriez développer pour que nos auditeurs comprennent bien que ce n'est pas qu'un outil pour les cultes, par exemple, mais qu'il est, il est très important que notamment les élèves du conservatoire de la ville de Montpellier, avec Luc Antonini notamment, etc. Donc je vous laisse compléter.
Oui, bien sûr, cet orgue est dans un temple, ce temple protestant, donc son objet principal, c'est l'accompagnement des cultes. Et comme dans tous les temples protestants, il se trouve au-dessus de la chaire et non pas au-dessus de l'entrée, comme dans les églises ou les cathédrales, puisqu'il fait partie de la prédication. Ça, c'est le côté cultuel, mais l'association AOTM, elle, est une association indépendante de l'Église protestante, et son but est de développer le côté culturel de cet orgue, et comme vous venez de le dire, le projet est de faire des concerts, éventuellement des conférences, des présentations, et notamment de développer un partenariat qui a déjà commencé avec le conservatoire rayonnement régional de Montpellier, pour que des élèves de la classe d'orgue, de Luc Antonini notamment, des élèves du professeur Luc Antonini, puissent venir s'exercer sur cet orgue tout à fait nouveau. Entre autres, et puis il y a d'autres projets. On a beaucoup finalement de sollicitations d'organistes professionnels ou amateurs confirmés qui souhaitent jouer dessus, parce que justement, comme l'a dit Michel, c'était un instrument tout à fait original et assez extraordinaire.
Voilà, donc je rappelle que l'AOTM, donc l'Association des Amis de l'Orgue du Temple de la rue de Maglone à Montpellier, a porté ce projet depuis 2009, qu'il a pu voir le jour puisqu'il a été installé entre janvier et février, le 15, le jour du culte de Pâques, il a résonné pour la première fois. Vous avez insisté sur la sonorité lumineuse de cet instrument, de cet orgue, et je crois qu'on ne peut que, dans le cadre de la musique, recommander, que ce soit sur le plan de l'architecture, que ce soit sur le plan de la musique, à nos auditeurs et auditrices de se rendre au temple de la rue Maglone. Je rappelle les deux concerts dont vous nous avez donné la date, le 9 et 15 juillet à 10h dans le cadre du Festival de Radio France. Et puis, je tiens donc à vous remercier. Michel, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Hélène, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Est-ce que je peux ajouter que les organistes, les 10 organistes qui sont venus, étaient heureux ?
Oui, ça c'est une très bonne conclusion aussi. Daniel, merci.
Merci.
Et je remercie William qui était à la régie. Et je vous souhaite une bonne journée.